Chapitre 1er. En l'année 16 de Langue Empire, le 7 du mois Méonius, je devins le plus jeune, déjà, cardinal de l'église du Kreutz. J'étais encore animé d'un zèle fervent. J'étais l'une de ces âmes polies par les années d'enseignement, pure comme du cristal, tranchante comme le diamant, et je brûlais d'envie de convertir les païens, les ennemis de la foi, au verbe vrai. Le spectacle des hérétiques agonisant lentement sur les croix de feu m'arrachait des larmes d'extase. Cela se passait bien avant l'apparition des premiers skaïtéfasseurs. Le 10 de Méonius, je fus nommé représentant de sa sainteté le Moufti Barofi le 24e sur la planète Ugen, si tristement célèbre pour le cataclysme nucléaire qui, 4000 années standard plus tôt, anéantit les deux tiers de sa population et transforma plus de la moitié de sa surface en désert. Bien que parfaitement conscient des dangers du Ugen, peste nucléaire, destruction des cellules, vieillissement prématuré, bêta-zoomorphie, forme aiguë de schizophrénie, etc., je fus transporté de joie à l'annonce de mon affectation. Que m'importaient les mines alarmistes de mes pères, puisque mon armure était trempée dans l'amour divin du Kreutz? Le 38 de Méonius, je me glissais dans l'un des déromates du palais de Vénétia, et 27 minutes standard plus tard, je repris conscience dans une pièce du temple kreutzien d'Anjor, la capitale locale, où je fus accueilli par une poignée de missionnaires, quelques serviteurs et un skaït inquisiteur. L'interlice impériale, assisté des mercenaires de Prytive, avait neutralisé les forces de l'ordre local et déposé le gouvernement planétaire, un ramassis de corrompus composé de 6 consuls d'Utigène, de ministres et de hauts fonctionnaires. Pour les jeunes générations qui ne connaîtraient pas Ugen, qu'elles sachent qu'elle est la seule planète habitée, et pourtant si peu accueillante, du système solaire d'Arès, une étoile qui a atteint depuis 20 millions d'années le stade de géante rouge. Colonisée en l'an 714 de l'ancien calendrier standard, Ugen subit un lent mais inexorable refroidissement consécutif à l'affaiblissement de l'activité d'Arès. Pendant des siècles, les minerais d'uranium et de plutonium ont constitué la principale, l'unique, ressource de cette planète glaciale. L'industrie nucléaire importée des mondes Skoï y connut un essor prodigieux entre l'an 950 et l'an 3500. Ugen devint le centre interstellaire du nucléaire. On y fabriquait à profusion des armes à fission, des moteurs de vaisseaux, plus de 1000 centrales produisaient de l'énergie qu'on acheminait sur d'autres mondes par des atomoducs, des conduits supraconducteurs tirés d'un système à l'autre par des sondes spatiales. La fission de l'atome fit la fortune d'Ugen. Elle fit également son malheur. En 3519, un terrible tremblement de terre détruisit la plupart des centrales et entraîna la formation de nuages radioactifs qui provoquèrent la mort de plus de 17 milliards d'êtres humains et la séparation de la planète en deux zones, la zone saine et la zone contaminée. Les Utigéniens savent que leur terre nourricière est malade, infestée, et que son étoile déclinante n'a plus la force de la réchauffer. Mais ils ne trouvent pas le courage de la quitter. C'est avec un admirable stoïcisme qu'ils endurent la lente glaciation, le clair-obscur persistant, les caprices du climat et la raréfaction de l'oxygène. En fils reconnaissant, ils veilleront jusqu'à la dernière extrémité leur mère mourante. Cependant, chez eux, le stoïcisme tend à se transformer en fatalisme. Or, souvenons-nous du sermon du Kreutz sur la grande dune d'Osgore. « Ô âme résignée, ne comprenez-vous pas que votre fatalisme fait de vous la proie désignée des faux prophètes, des fausses croyances ?» âme qui avez renoncé à votre liberté, âme qui vous laissez capturer par les rettes de l'illusion. » Sur Udgen, j'eus l'illustration concrète de la divine prophétie du Kreutz. Au passage, mon expérience personnelle m'autorise à rappeler ce grand principe aux novices de nos écoles de propagande sacrée. La notion de fatum, chère à certains hétérodoxes, conduit aux pires aberrations. Ici, le chien d'en proliférait et étouffait les graines de la vraie foi plantées par les missionnaires. Les sacrifices d'enfants, les fornications collectives, les rites barbares et païens se multipliaient. Que dire de la population locale, de ces ouailles que le moufti m'accorda la grâce de me confier? Les hommes utigéniens sont massifs, courtauds, comme si la pesanteur, beaucoup plus intense que sur les mondes du centre, les écrasait, les comprimait, les déformait. Les faciès sont le plus souvent grossiers, bestiaux, un début de bétazomorphie généralisée. Les sourcils sont fournis, les yeux globuleux et jaunes, les appendices nasaux gros et larges, les lèvres épaisses, les mentons prognates. Les femmes sont quant à elles élancées, fines de taille et délicates de traits. Pourtant, autant que mon jugement revêt un quelconque intérêt, je les trouve aussi belles que leurs maris sont laids. Une explication possible, qui fait sourire les scientifiques mais qui a le mérite ou l'excuse de la poésie, à ce saisissant contraste, le métabolisme féminin, régi par le monde de la nuit, l'homme est d'essence solaire, la femme d'essence lunaire, s'adapte mieux à la dégradation des conditions climatiques du Djen. Je ne parle pas ici des transfuges de la zone contaminée, surnommés les Quarantins. Cela ressemblait davantage aux monstres de notre bestiaire apocalyptique qu'à des êtres humains. Ils devaient leur survie à la protection de l'ancienne confédération de Naflin et de ses séides, les chevaliers Absourates. On m'a reproché à maintes reprises d'avoir ordonné le gazage et le comblement des puits et des galeries du Terrarium Nord, le quartier souterrain des Quarantins. Mais le Conseil supérieur de l'éthique kreutzienne, que j'avais au préalable saisi, m'avait assuré de tout son soutien. Le 17 de Jorus Syracusain, je fis condamner mon premier hérétique au supplice de la croix de feu à combustion lente. C'était un officiant de la religion de l'Ashprim, un adorateur d'Arès, le dieu soleil au corps de femme. Je me souviendrai jusqu'à ma mort, fasse Kreutz qu'elle intervienne le plus tardivement possible, ma tâche n'est pas achevée sur ces bas-mondes. De son expression de haine, lorsque les premières langues de feu pulsées de la croix lui léchèrent la peau. C'était, contrairement à la majorité de ses complanétaires, un homme magnifique, très fortement sexué, impudique dans sa nudité animale, et dans les rangs de l'assistance les nombreuses femmes qu'il avait fécondées. Elles avaient d'abord protesté de leur innocence, mais le Skaït inquisiteur n'avait eu aucun mal à les confondre, ne purent contenir leurs larmes. En ce temps-là, mon sacerdoce emplissait toutes mes pensées. Je n'avais nul besoin de recourir aux effaceurs pour renier ma jeunesse, pour oublier mes origines marquinatines. Le fils de Jessica Bog, la lingère de la ronde maison aux neuf tours, n'avait jamais existé. Le compagnon de jeu de Listwortling, le fils du seigneur Abaski, n'avait jamais existé. L'adolescent révolté qui avait pleuré pendant deux jours et deux nuits sur Dame Armina Wortling n'avait jamais existé. J'étais loin de Syracusa, loin des intrigues de Vénitia. Comment aurais-je pu me douter de ce qui se tramait dans les couloirs du palais épiscopal? Mémoire manteau du cardinal Frassiste Bog, qui devint moufti de l'église du Kreutz sous le nom de Barophile le 25e. Jack contempla le mirador à pensée, une tour étroite et haute qui dominait les toits plats et étagés d'Anjor, la capitale du Djen. Là-haut, à l'intérieur de la bulle de vigie éclairée, se profilait la silhouette immobile du skaït inquisiteur, drapé dans son akaba grise. Plus haut encore, sur la voûte céleste assombrie, se découpait le cercle rougeâtre d'Arès, le soleil déclinant. Ces deux halos superposés, l'un artificiel et l'autre naturel, symbolisaient le double malheur qui s'était abattu sur Udjen. Il n'avait pas suffi qu'Arès, le dieu soleil au corps de femme, répande 40 siècles plus tôt la peste nucléaire sur les 2/3 de la planète et décime plus de 15 milliards de ses habitants, il avait encore fallu que les légions du grand Hang Empire kreutzien, skaïtes, mercenaires de Prithiv et interliciés, débarquent en masse, neutralisent les forces de l'ordre local, renversent les 6 consuls de Lutigen, et depuis plus de 10 années fassent régner la terreur, sous la conduite du plus fanatique d'entre eux, le cardinal Fraciste Bog. Jake se mit en marche. Bien qu'il ne fût âgé que de 8 ans, il était parfaitement conscient du danger qu'il y avait à rester trop longtemps au pied d'un mirador à penser. Il risquait d'éveiller les soupçons du skaït inquisiteur, et une perquisition mentale pouvait l'amener tout droit devant un tribunal sacré ou dans un centre de reprogrammation mentale. S'il voulait un jour mettre son grand projet à exécution, il devait éviter d'attirer l'attention sur lui. Il remonta la rue principale d'Anjor, une avenue étroite et sinueuse qui s'étirait sur plus de 140 kilomètres. Les lampadaires mobiles, allumés en permanence, semaient de larges flaques jaunes sur les trottoirs. L'indéchiffrable obscurité cédait le pas aux ténèbres profondes. Les écharpes de brume s'entrelaçaient autour des bornes lumineuses qui signalaient l'emplacement des stations souterraines du RTA, le réseau de transport anjorien. Jack décida de parcourir à pied les 7 kilomètres qui le séparaient de son domicile. Il préférait encore arriver en retard au dîner et subir les remontrances de ses parents plutôt que d'emprunter les tubes archibondés du RTA. Ces gros vers blancs qui s'enfonçaient en rugissant dans les entrailles lubrifiées et nauséabondes de la cité. Il gagna d'abord le marché permanent de Rakamel. Il longea les étals tenus par les employés des fermes communautaires des plaines, reconnaissables à leurs blouses et leurs bonnets de laine écrue. Depuis le cataclysme, les légumes, les céréales et les fruits étaient cultivés sous de gigantesques serres étanches, et perdaient chaque année de leur saveur et de leur couleur. Les quartiers de viande suspendus à leurs crochets étaient eux-mêmes d'une insipide teinte grisâtre. Lorsqu'il était de bonne humeur, événement de plus en plus rare, Pa Atskin prenait Jake sur ses genoux et évoquait le bon vieux temps du Djen. Le bon vieux temps où les fruits juteux, sucrés, éclataient de couleurs vives, où les animaux couraient en semi-liberté sur les hauts plateaux, où les Anjoriens allaient se baigner dans la mer chaude de Zougas. Le bon vieux temps où vivre sur Udjen n'était pas nécessairement considéré comme une corvée. Jake se demandait où Pa Atskin puisait son inspiration. Il n'était âgé que de 65 ans, et la catastrophe avait eu lieu quelques 4000 années plus tôt. Il fallait être doué d'une imagination sans bornes pour oser transformer la grande banquise de Zougas en mer chaude. Jake ne protestait pas car il comprenait que son père éprouvait de temps à autre le besoin pressant de ressusciter par la parole son monde agonisant. Laissant derrière lui les étals sinistrés et les marchands aux mines lugubres, Jake déboucha sur l'immense esplanade des Saints Supplices. Sur le parvis du temple kreutzien, dont les flèches effilées, élégantes, brisaient la rigueur géométrique des constructions locales, se dressait une forêt de croix de feu. Le cardinal Fraciste Bog avait fait installer des projecteurs de sol qui éclairaient de jour comme de nuit les corps nus et écartelés des condamnés. À l'intérieur des parois transparentes, il n'existait ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux, mais seulement des chairs boursouflées, des peaux qui partaient en lambeaux, des bouches déformées par un affreux rictus, des yeux exorbités qui adressaient une supplique muette aux passants, des monstres difformes et grimaçants qui mettaient parfois plus de 7 jours à mourir. Jake baissa la tête et se mordit les lèvres pour contenir les larmes qui lui embuaient les yeux. Même s'il les connaissait depuis toujours, il n'était pas parvenu à s'habituer à ces abominables mouroirs. Tel n'était pas le cas des badauds qui déambulaient d'une croix à l'autre et qui, d'une voix tantôt indifférente, tantôt amusée, commentaient les ravages opérés par le feu pulsé sur les suppliciés.
« Pas courte mille, regarde celui-là, on dirait un scarabée corné !»
s'exclamait une petite fille à peine moins âgée que Jack.
« Et elle ressemble à l'horrible poupée que t'avais offerte grand-maman !»
ricanait une femme.
« Man courte mille, ne commence pas à dénigrer les cadeaux de ma mère !»
gronda une voix masculine.
« Ils sont affreux, ils me font peur.
Tu ne risques rien, petite idiote. Ils ne peuvent pas sortir de leur croix. »
Jake serra les poings, les enfonça dans les poches crevées de son pantalon bouffant et traversa la place en courant. Il arriva chez lui 2 heures plus tard, essoufflé, couvert de sueur. Les croissants maladifs des 2 satellites du Gen avaient supplanté Arès dans le ciel. La maison familiale, une construction à demi enterrée, la crainte irrationnelle d'une nouvelle tornade radioactive, était située en plein cœur du quartier résidentiel d'Ot Anjor, littéralement le vieil Anjor. Pa Atskin n'était pas peu fier de l'étroite bande de gazon artificiel qui entourait la bâtisse et qu'il appelait, avec une façon bien à lui de gonfler les joues et le ventre, le « jardin », un luxe inouï dans une ville surpeuplée comme Anjor, où la plupart des familles ne disposaient que d'une pièce pour manger, se disputer, procréer et dormir. Ses parents avaient déjà pris place autour de la table lorsqu'il entra dans la pièce de plein pied qui faisait office de cuisine, de salle à manger, de salon et de chambre d'enfant. Sa chambre donc, puisqu'il était fils unique. Man Atskin lui lança un regard noir et Pa Atskin fronça les sourcils. Il n'avait jamais été très drôle. Sauf quand Pa Atskin revenait de ses réunions semestrielles, les yeux brillants et la laine chargée. Mais depuis qu'il s'était converti au crudianisme, ils étaient devenus franchement lugubres. Son père s'était tassé, voûté, comme s'il s'était enroulé autour de son ventre proéminent. Et le visage de sa mère s'était durci, parcheminé. Il portait désormais des cols en corps sous les vêtements traditionnels utigéniens. Veste et pantalon noués à la taille pour les hommes, longues tuniques et pantalons serrés pour les femmes. Le cache-tête au liséré froncé soulignait la grossièreté des traits de Pa Atskin et accentuait sa ressemblance avec une gargouille monstrueuse des anciens temples de l'Ashprim, la religion du dieu soleil à corps de femme. Et les 3 mèches réglementaires censées donner de la grâce à l'ensemble achevaient de le rendre ridicule. Depuis quelque temps, il s'était mis en tête d'enseigner les premiers rudiments du crudianisme à leur fils. Mais il se heurtait à un véritable mur. Doté d'un caractère bien trempé pour son âge, Jack refusait obstinément de se rendre aux offices du temple et d'écouter la parole divine du Kreutz. Le pire était que ses parents n'avaient pas été convertis à la religion officielle du grand Hang Empire par la force, comme beaucoup d'Anjoriens. Mais qu'ils avaient reçu la révélation de la grâce divine en pleine nuit, et d'une manière tout à fait spontanée. Du moins, c'est ce qu'ils prétendaient. Jake devinait confusément qu'il y avait quelque tricherie là-dessous. Pétrifié à côté de la porte, il avait l'impression de faire face à 2 morts-vivants. Les seuls éléments animés de la pièce étaient les volutes de fumée qui s'élevaient des assiettes et du récipient de porcelaine synthétique trônant au centre de la table.
« D'où viens-tu, Jack ?» demanda Man Atskin, un ton doucereux qui ne présageait rien de bon. « Je me suis promené en ville, » répondit Jack.
« Toujours la même réponse, » grommela Patskin.
« Toujours la même question, » soupira Jack.
Le repas se déroula dans un silence mortuaire, mais aux coups d'œil furtifs et fréquents que s'échangeaient ses parents, Jack se douta qu'il fomentait un mauvais coup. Patskin suspendit sa mastication et s'essuya les lèvres.
« Jack !»«
Jack !» renchérit Atkin.
« Jack, mon fils, tu deviens de plus en plus insolent. »«
De plus en plus insupportable. »
Jack se prit à regretter de n'avoir pas suivi les conseils du vieil Arthrarak. La résolution farouche qu'il lisait sur le visage de son père et de sa mère, éclairée de biais par les appliques murales, l'emplissait soudain d'une peur atroce.
« Jack, mon fils, nous avons pris une décision à ton sujet, » reprit Patskin.
« Il est temps de mettre un peu d'ordre dans cette tête rebelle, » ajouta Atskin.
« C'est pourquoi, dès demain matin, tu partiras pour l'école de propagande sacrée d'Ulbahi. »
« Une très bonne école, où tu seras très bien traité. »
Le sang de Jack se glaça. Il faillit aussitôt régurgiter la mère soupe au pois, la soupe au pois, la torture culinaire préférée de Manhattan, qu'il s'était pourtant efforcé d'avaler jusqu'à la dernière cuillère. Jack se piquait les joues avec une aiguille qu'il avait dérobée dans le trousseau de sa mère. Sa longue marche dans les rues d'Anjor l'avait épuisé, et le sommeil, tel un oiseau de nuit, déployait ses ailes en lui. Ses muscles s'engourdissaient, se faisaient de plus en plus lourds. Les voix étouffées de ses parents traversaient le plancher. Surtout ne pas dormir. Il s'était évertué à ne manifester aucune émotion en leur présence. Mais dès qu'il s'était glissé dans les draps de son lit escamotable, les larmes brûlantes et salées avaient roulé sur ses joues et sur ses lèvres. Ainsi, il voulait se séparer de lui. L'expédier à Ulbahi, une lointaine ville de province, l'enfermer dans une école de propagande sacrée où il serait nuit et jour sous la coupe des missionnaires kreutziens. Jack jugeait parfois, souvent, ses parents avec la sévérité excessive des enfants. Mais à sa manière, il les aimait. Il gardait en lui les souvenirs des temps heureux. Il entendait encore les rires tonitruants de Patskin. Il voyait encore les yeux pétillants de Manhattan. Il tremblait aux éclats de leurs disputes. Il riait aux embrassades gauches qui signaient leur réconciliation. Les temps où vibraient les murs et les plafonds, les meubles et les appliques. Les temps où la vie osait s'exprimer. Où la maison familiale était un îlot de chaleur et de fureur dans la grisaille perpétuelle et froide du Djen. Il se réveilla en sursaut, couvert de sueur. En un réflexe convulsif, il enfonça la pointe de l'aiguille dans sa joue. La douleur, vive, aiguë, lui arracha un cri. Il s'immobilisa, tout sens aux aguets. La maison était plongée dans un silence profond, seulement égratigné par les grondements sourds des tubes souterrains du RTA et les bourdonnements lointains des navettes aériennes marchandes. Il lâcha l'aiguille, repoussa les draps, se leva et retira son pyjama. La détestable manie qu'avait Manhattan de ranger ses vêtements du jour sur le plan de travail de la cuisine l'obligea à traverser la pièce à tâtons. Comme on était en automne, Patskin n'avait pas encore installé les sphères atomiques de chauffage. Eugène ne connaissait plus que trois saisons, grand hiver, hiver et automne. Toutefois, les irrépressibles frissons qui couraient sur la peau nue de Jack n'étaient pas seulement dus au carrelage glacé et à la fraîcheur nocturne. Cela faisait plus d'un an qu'il caressait son grand projet, depuis, en fait, qu'il avait rencontré Arthrarak, le vieux quarantin du Terrarium Nord. Cependant, il s'en rendait compte maintenant. Il n'avait jamais eu l'intention de le mettre à exécution. C'était plutôt un rêve de gosse. Une porte ouverte sur l'imaginaire, une manière de s'évader du quotidien, une façon comme une autre de tromper son ennui. Il heurta une chaise, elle glissa sur ses quatre pieds dans un horrible grincement. Il eut l'impression que son cœur s'échappait de sa poitrine. Il se figea sur place, tendit l'oreille, mais ne décela aucun bruit, aucun mouvement, aucune vibration sous ses pieds nus. Il quittait ses parents pour toujours. Toujours, un concept effrayant pour un enfant de 8 ans. Et eux dormaient du sommeil lourd de ceux qu'aucun remords ne vient tourmenter. Des sentiments contradictoires l'agitaient. Il avait une envie folle qu'ils se réveillent, qu'ils se lèvent, qu'ils accourent, qu'ils le serrent à l'étouffer dans leurs bras, qu'ils lui murmurent des mots rassurants, des mots tendres. Et en même temps, il espérait qu'il n'en ferait rien, qu'il ne le retiendrait pas, qu'il le laisserait partir pour le long voyage dont il ne reviendrait pas. Il mit la main sur ses vêtements soigneusement pliés, l'ordre, une des marottes de Man Atkin, et s'habilla à la hâte. Il lui fut plus difficile de retrouver ses chaussures, des bottes fourrées, car il prenait parfois à sa mère l'absurde fantaisie de les ranger au beau milieu des produits d'entretien, sous l'évier et les conduits d'énergie magnétique. Il réussit à les dénicher au prix de savantes contorsions, les enfila, et toujours à tâtons, se dirigea vers la porte. Le rayon d'un lampadaire mobile se glissait par un interstice du volet anti-radiation et se réfléchissait sur l'écran bulle de l'holovision. Eugène, planète mineure de l'Empire, ne captait plus les émissions transstellaires et ne disposait pas des structures nécessaires à la réalisation de productions médiatiques autonomes. Mais Pa Atkin avait décidé de garder la sphère réceptrice. « Ça fait une belle décoration », affirmait-il en lissant l'une de ses 3 mèches. C'était surtout un signe ostentatoire de la richesse de la famille Atkin. Très rares étaient les Utigéniens qui avaient les moyens de s'offrir un écran bulle. La main sur la poignée de la porte, Jack se retourna et embrassa du regard la pièce inondée d'encre nocturne. La puissante vague de solitude et de tristesse qui le submergea abandonna une écume d'amertume dans sa gorge. Pendant une poignée de secondes, il fut tenté de renoncer à son projet insensé et de retourner s'enfouir dans la tiédeur rassurante des draps. Puis il songea à ce qu'il voulait faire de lui. Il imagina la ville sinistre d'Ulbaï, les infranchissables murailles de l'école de propagande sacrée, les faces sévères des missionnaires creusiens, et sa décision s'en trouva raffermie. Qu'est-ce que son départ changerait pour Pa et Man Atkin? La seule différence, c'est qu'il s'en allait avant qu'il n'ait eu le temps de le chasser. Il refoula à grand-peine une nouvelle montée de larmes, tourna précautionneusement la poignée et entrebâilla la porte. Pa Atkin avait eu la bonne idée d'ajouter les empreintes cellulaires de Jack à l'identificateur de passage, et le système d'alarme ne se déclencha pas. Lorsqu'il se retrouva sur le trottoir, il eut l'impression de plonger dans un océan de frayeur. Les lampadaires n'étaient plus que des halos diffus, des yeux ronds et myopes qui ne parvenaient pas à transpercer l'épais manteau de brume recouvrant la ville. Par chance, la ruelle était déserte. Jack releva le col et resserra les pans de sa veste, puis trottina en direction de la première borne du RTA. Quelques minutes plus tard, la plateforme gravitationnelle le déposa sur le quai de la station souterraine. Les tubes automatiques se faisaient rares à 7 heures de la nuit. La lassitude ou l'indifférence se lisait sur les visages des usagers qui se pressaient par grappes de 3 ou 4 autour des sièges auto-suspendus. Malgré leur fatigue, ils refusaient de s'asseoir, comme s'ils avaient peur de s'endormir sur place et de rater le prochain tube. Jack aperçut les combinaisons noires d'interlissiers à l'autre bout du quai. Si ceux-là se rendaient compte qu'un garçon de 8 ans se promenait seul au cœur de la nuit en Jorienne, ils ne se priveraient pas du plaisir de l'interpeller et de le conduire dans un poste d'interlisse, où ils effectueraient une analyse cellulaire avant de le ramener à son point de départ. Un moment, Jack fut pris d'un secret espoir qu'il se retourne et se saisisse de lui. Cela ne faisait que 3 minutes qu'il volait de ses propres ailes,
Il ne se sentait pas très à l'aise dans son indépendance toute neuve, bien trop grande pour lui.
Puis il se moqua vertement de lui-même. Jack Atkin, l'aventurier qui s'apprêtait à découvrir le vaste univers, n'était même pas fichu de s'éloigner de 300 pas de la maison. Jack Atkin, qui aspirait à rencontrer les trois êtres de légende qu'évoquait le vieillard Tarak, hésitait à quitter ces deux êtres ordinaires qui avaient pour nom pas aimant Atkin. D'accord, il était le fruit de la graine de son père et de l'œuf de sa mère. D'accord, il avait passé 6 mois dans le ventre de Man et 3 autres dans la couveuse familiale qui avait vu naître pas Atkin et avant lui grand-pa Atkin. D'accord, cette espèce de réaction en chaîne héréditaire, amoureuse et chimique, avait tissé des liens invincibles entre eux et lui. Devait-il pour autant reculer devant l'inconnu? Troquer la perspective d'une existence exaltante contre l'assurance d'une vie morne à l'ombre des hauts murs d'une école de propagande sacrée? Jake repéra un couple enlacé à quelques pas de lui, s'en approcha discrètement et se tint à côté de la femme. Ni trop jeune, ni trop âgé, il ferait des parents de fortune tout à fait acceptables, aussi vraisemblables en tout cas que les auteurs de ces jours. Il leur emboîta le pas lorsque le tube, un engin blanc et souple d'une 50aine de mètres de long, s'immobilisa sur le bord du quai dans un insupportable crissement. Les trappes coulissantes s'ouvrirent dans un sifflement prolongé. Le compartiment, éclaboussé de lumière sale, n'était qu'aux 3/4 plein. Les nouveaux parents de Jack eurent la bonne idée de s'asseoir sur une banquette vide, de se serrer l'un contre l'autre et d'offrir ainsi une petite place à leur fils inconnu. Ils ne lui prêtèrent aucune attention, trop occupés qu'ils étaient à s'embrasser, à se nourrir l'un de l'autre. C'était quelque chose d'assez étonnant, d'à la fois répugnant et fascinant, que de voir ses lèvres luisantes se tordre et s'entre-dévorer comme des vers affamés et furieux. Tandis que défilaient les stations, Jack ne se lassa pas de les observer du coin de l'œil. Il n'était pas converti au creusianisme, du moins pas encore. D'une part, il ne portait pas de col encore. D'autre part, des creusiens, régis par le sévère code des tolérances conjugales, ne se seraient jamais livrés à une telle exhibition en public. Il craignit que leur comportement provoquant ne sorte les interliciers, les ombres noires et menaçantes assises quelques banquettes plus loin, de leur indifférence. Déjà, les regards désapprobateurs des autres voyageurs fusaient dans leur direction. Jack supplia intérieurement ses parents intérimaires de suspendre leurs activités, au moins tant qu'ils seraient auprès d'eux. Et, curieusement, la femme exauça sa prière. Elle rejeta la tête en arrière, comme si les baisers enflammés de son compagnon avaient fini par la consumer. Elle était belle dans la défaite, avec ses grands yeux perdus dans le vague, ses cheveux ondulants et ses lèvres rouges et gonflées. Jack se demanda si Pa et Man Atkin pratiquaient encore ce genre de jeu dans leur chambre du sous-sol. Mais il s'aperçut vite que c'était là une pensée incongrue, absurde. Au fur et à mesure que le tube automatique s'éloignait du centre historique d'Anjor, l'image de son père et de sa mère devenait floue, imprécise, impalpable. Il fut effaré de constater à quelle vitesse il les oubliait. Il lui semblait soudain qu'il les avait quittés depuis des années, depuis des siècles. Les galeries ténébreuses du RTA buvaient avidement ses souvenirs. Carrefour Traf Anjor. Il lui fallait maintenant changer de tube pour se rendre au Terrarium Nord, le quartier des Quarantins. Il enveloppa d'un ultime regard le couple dont les bouches volaient l'une vers l'autre pour un nouvel affrontement. Cet homme et cette femme, des révoltés dans leur genre, ne sauraient jamais qu'ils avaient eu, l'espace de quelques minutes, un fils rebelle, silencieux et attentif de 8 ans. Le tube ralentit et s'immobilisa sur le bord de l'interminable quai du carrefour. Jack se jeta dans le flot de voyageurs. Des griffes acérées lui pincèrent les entrailles lorsqu'il passa devant les interliciers. Mais aucune voix ne le cloua sur place, aucune main ne se referma sur son bras. S'efforçant de marcher d'une allure dégagée,
Il sortit du tube et se dirigea vers la plateforme de correspondance. Il s'était si souvent rendu chez le vieil Arthrarak qu'il aurait pu accomplir le trajet les yeux fermés. Désormais, il ne pouvait plus revenir en arrière, et la seule question qu'il se posait était de savoir si le Carentin accepterait de le recevoir à cette heure de la nuit. Le terrarium, les quartiers souterrains qui abritaient les populations transfuges de la zone contaminée, s'étendaient sur des centaines d'hectares au nord d'Anjor. C'était une ville dans la ville, avec sa propre administration, ses propres commerces et sa propre police. Un ghetto que ne fréquentaient jamais les surfaceurs, les Anjoriens de surface. Avant d'y mettre les pieds, Jake avait entendu toutes sortes d'histoires sur le compte des Carentins. Patskin, par exemple, prétendait que les grands vents radioactifs avaient provoqué chez eux des maladies bizarres et des métamorphoses monstrueuses. Il disait aussi qu'on n'aurait jamais dû les laisser entrer dans la zone protégée, qu'ils fabriquaient des gosses à tire-larigot et que, si on ne faisait rien pour les empêcher de procréer, ils finiraient par être 10 fois plus nombreux que les utigéniens sains. Et Paraskin de vitupérer contre l'incompétence du gouvernement antique qui, 1500 ans plus tôt, avait eu la faiblesse de recevoir une délégation venue de la zone contaminée, d'accepter ses revendications et de neutraliser la barrière magnétique isolante dressée entre les deux régions. 2 siècles plus tard, les célèbres tyrans du Pouzou, le parti des ultra-saints du Djen, avaient redressé la situation avec l'énergie et l'extrémisme qui les caractérisaient. Ils avaient rassemblé les Carentins dans des vaisseaux programmés pour exploser en vol. Ils avaient cru débarrasser Anjor de la vermine infectée. Mais quelques individus avaient échappé aux rafles et à l'extermination en se réfugiant dans les égouts de la capitale anjorienne. Ainsi était né le Terrarium Nord. Une frayeur immense avait saisi Jack lorsqu'il avait franchi la première fois la porte monumentale du ghetto, lorsqu'il avait vu les aiguilles de béton entrelacées et menaçantes qui ceinturaient les gigantesques excavations. Il s'était attendu à voir surgir des monstres hideux, des innombrables orbites noires qui béaient sur les parois lisses des puits de descente. Et seules les moqueries de ses amis l'avaient dissuadé de rebrousser chemin. Puis il avait constaté que les Carentins étaient des humains presque comme les autres. Il s'était accoutumé à leurs visages torturés, à leurs corps difformes et aux curieux borborygmes qui ponctuaient leurs propos. Il avait découvert et apprécié leur chaleur, leur humour, leur joie de vivre. Leurs ancêtres avaient peut-être été victimes de la colère du dieu soleil de l'Ashprim, mais eux ne souffraient pas de la morosité qui gangrenait les Anjoriens de surface. Les missionnaires crediens n'osaient pas s'aventurer dans le Terrarium Nord. Cela ne signifiait pas pour autant que l'Église se désintéressât du sort des Carentins. À plusieurs reprises, Paatskin avait laissé entendre que le cardinal Fraciste Bog et ses conseillers préparait une solution radicale, définitive, au problème épineux posé par le ghetto. Jack dévala l'escalier d'accès au puits A-102, plongé dans une obscurité opaque, et déboucha sur le ponton supérieur. Les claquements de ses bottes sur le plancher métallique se répercutèrent d'une paroi à l'autre. Il s'approcha de la console lumineuse encastrée dans l'un des pylônes suspendus, et appuya sur le bouton de commande de la plateforme gravitationnelle. Les rafales d'un vent cinglant plaquèrent des mèches de sa chevelure sur son front et ses tempes. Il dut s'arc-bouter contre la balustrade du ponton pour ne pas perdre l'équilibre et se faire précipiter quelques centaines de mètres en contrebas. Au-dessus de lui, les étoiles et les croissants pâles des satellites se noyaient dans l'épais plafond de brume. Quelques minutes plus tard, la plateforme émergea des ténèbres et vint lentement s'abouter au ponton. Jack composa les chiffres 2, 5, 4 sur le clavier de la console, puis s'installa précautionneusement au milieu de la surface plane et circulaire d'une 20aine de mètres de diamètre. Elle n'était pas équipée de garde-corps comme les plateformes du RTA, mais d'un champ de gravité artificiel. En plein jour, Jack évitait soigneusement de s'approcher de son bord et plus encore de se pencher pour regarder au fond du puits. Même lorsqu'elle était bondée, il se débrouillait toujours pour se frayer un chemin jusqu'à son centre. Là, immobile, tétanisé, il attendait avec impatience le moment où il ne serait plus suspendu dans le vide, où il pourrait enfin fouler la terre ferme des tunnels. La plateforme oscilla légèrement sur elle-même, puis entama sa descente en émettant un faible bourdonnement. D'habitude, Jack n'était pas seul et elle s'arrêtait aux niveaux intermédiaires saisis sur la console par les autres passagers. Cette fois-ci, comme le mémodisque de programmation lui donnait un peu de champ libre, elle prit rapidement de la vitesse. Bien que maintenue par le champ de gravité artificielle, Jack eut la brusque sensation de décoller du plancher. Une impression d'autant plus saisissante que l'obscurité l'empêchait de se repérer aux parois convexes du puits, qu'il ne pouvait se fier qu'au sifflement menaçant de l'air. Il crut qu'il allait s'écraser au fond du gouffre, et son cœur affolé lui martela la cage thoracique et les tympans. La plateforme réduisit progressivement son allure, et les organes éparpillés de Jack réintégrèrent leur emplacement initial. Elle s'aligna sagement contre le bord extérieur d'un étroit ponton de réception, auquel elle finit par s'abouter dans un claquement bref. Le champ de gravité artificielle se désactiva. Étourdi, suffoquant, Jack se leva et, bien que ses jambes flagellantes eussent quelques difficultés à le porter, il fila sans demander son reste. Il ne jeta pas son habituel coup d'œil vers le sommet du puits, vers cette bouche qui paraissait si grande là-haut et si minuscule en bas. Il ne chercha pas davantage à vérifier qu'il était bien arrivé au niveau -254. Il franchit le ponton en quelques bonds et s'enfonça directement dans le tunnel d'accès au terrier. Talonné par les ténèbres, il courut jusqu'au premier embranchement, une placette voûtée d'où partaient une douzaine d'autres galeries. Il ne voyait pratiquement rien, mais il suivait la carte intérieure qui, au fil de ses visites, s'était imprimée dans son esprit. Les rampes enchâssées dans les voûtes des tunnels étaient éteintes. Des rayons ténus s'infiltraient par les interstices arrondis des sas des terriers encore éclairés. Jack s'était toujours demandé comment les quarantains faisaient la différence entre le jour et la nuit. Sa balade nocturne dans le labyrinthe du terrarium lui en apportait la réponse. Il mettait tout simplement fin au jour artificiel en éteignant les rampes des tunnels. Au sixième embranchement, il s'engagea dans une galerie étroite et sinueuse dont l'odeur caractéristique, différente de l'âcre puanteur de renfermés et de moisissures qui régnait dans le ghetto, lui indiqua qu'il touchait au but. Il déboucha bientôt sur la vaste grotte des plantations de Plumeng, une racine aromatique qui entrait dans la composition de la plupart des pommades, onguents et épices des quarantins. Un flot de lumière crue s'échappait du sas entrouvert du terrier du vieil arbre à rac, inondait un carré de terreau noir, caressait les feuilles brunes et largement nervurées des plumengues qui escaladaient les reliefs d'une paroi rugueuse avant de se jeter dans les insondables profondeurs de la grotte. Un léger clapotis troublait le silence. Jack reprit son souffle et essuya d'un revers de manche les gouttelettes de sueur qui perlaient sur son front.
« Tu t'es décidé !» fit soudain une voix grave et mélodieuse.
Jack sursauta. Le vieil Arthrarak émergea d'un repli d'obscurité et s'avança vers lui, un sourire vissé au coin des lèvres. Chez le quarantin, la nature semblait avoir pris un malin plaisir à compliquer les choses. Il ne lui suffisait pas d'avoir un nom imprononçable, il fallait en plus que sa vilaine bobine fût ajustée en dépit du bon sens. On cherchait les yeux sous le front et on les découvrait placés de chaque côté du nez en forme de museau, tellement renfoncés dans leurs orbites qu'on se demandait d'abord, jusqu'à ce qu'on distingue les lueurs vives des prunelles, si on n'avait pas affaire à une paire de narines supplémentaires. La bouche, d'une incroyable mobilité, s'étirait jusqu'aux oreilles, elle-même implantée directement sur les tempes. Quelques poils blancs savamment disposés ne réussissait pas à camoufler le crâne nu, crevassé, cabossé. Quant aux membres, ils étaient si longs et si maigres qu'ils conféraient à leur propriétaire la curieuse allure d'une araignée perpétuellement suspendue à son fil. De même,
Il était difficile d'accoler le nom de vêtements au bout de tissus élimés et sales, grossièrement cousus les uns aux autres, qui enveloppaient l'ensemble. Comme bon nombre de Carentins, Arthrarac souffrait de bêta-zoomorphie. Ses lointains ascendants avaient été irradiés par les grands vents radioactifs, et la maladie, infectant les gènes, s'était transmise de génération en génération. Toutefois, les malformations d'Arthrarac s'évanouissaient comme par enchantement dès qu'il prenait la parole. Chez lui, la beauté se nichait dans la voix, une voix basse, chaude, envoûtante. Elle coulait de sa gorge comme la plus précieuse et la plus parfumée des eaux de source, comme une rivière apaisante, enchantée, au sein de laquelle Jex plongeait avec délectation. Les petits Andjoriens de surface qui venaient lui rendre visite n'avaient aucune idée de son âge, mais ils l'avaient spontanément surnommé « le vieil Arthrarac ». Les Carentins, eux, le considéraient comme un marginal, comme un radoteur qui finissait par s'empêtrer dans les légendes qu'il racontait. La lumière crue du terrier sculptait les traits tourmentés d'Arthrarac. Ses doigts osseux se refermèrent comme des serres sur l'épaule de Jec. « Tu t'es enfui de chez toi, n'est-ce pas ?» Jec réprima un frisson et acquiesça d'un mouvement de menton. « Eh bien, ça me rassure. Il y en a au moins un qui a cru à mes histoires. » Mes parents voulaient m'envoyer dès demain matin dans une école de propagande sacrée, bredouilla Jec au bord des larmes. Oh oh, un cas d'urgence. Viens dans mon terrier, nous serons mieux pour parler. Une pensée vénéneuse traversa le cerveau de Jec. Pouvait-on vraiment faire confiance au vieil Arthrarac? Et si ces belles histoires n'étaient que les fruits d'un cerveau affabulateur, pervers, détraqué? Patskin disait souvent que les Carentins souffraient de crises aiguës de schizophrénie, des moments pendant lesquels ils croyaient voir et entendre des choses qui n'existaient pas. Peut-être qu'Anaya Fikit, la belle Syracusaine, Sri Lumpa l'Orangien et le Mahdi Shari des Imlias, les trois personnages de légende qui combattaient les armées du grand Hang Empire, n'existaient pas eux non plus. Tout à coup, Jec trouva peu vraisemblable qu'on puisse échapper à un lézard géant de la planète Deux Saisons, narguer l'inquisition mentale et voyager sur ses pensées. Arthrarac l'entraîna à l'intérieur du terrier et lui fit signe de s'asseoir sur un tabouret de pierre taillée. Le mobilier du Carentin se réduisait à sa plus simple expression. Deux autres tabourets, une table de terre séchée, quelques étagères creusées directement dans les parois rocheuses et un matelas de feuilles de plumeng posé à même le sol. La grosse bulle lumière à reconnaissance vocale qui flottait sous le plafond bas était sa seule concession au modernisme. Quelle que fût la saison, grand hiver, hiver ou automne, et même s'il ne disposait d'aucune sphère atomique de chauffage, le terrier offrait une température agréable et constante.
« Je suppose que tu as faim et soif, » dit Arthrarac.
Sans même attendre la réponse de son petit hôte, il disparut dans une seconde pièce en enfilade. Une fatigue intense s'abattit soudain sur les épaules de Jec. Ses muscles endoloris réclamèrent avec insistance leur dû de sommeil. Ses parents l'avaient tellement accoutumé à se coucher tôt qu'il se sentait complètement patraque, qu'il avait l'impression tenace d'évoluer à côté de son corps. Les formes et les sons glissaient sur lui comme des songes.
« Voilà de quoi reprendre des forces. Tu en auras besoin, car tu devras partir avant le lever du jour. Dès que tes parents auront alerté les interliciers, ils lanceront une sonde olfactive sur tes traces. »
Arthrarac posa un plateau devant Jec, qui machinalement saisit une tasse. Le breuvage, brûlant, amer, lui soutira des larmes.
« Je pourrais peut-être brouiller la piste de la sonde, mais je n'en suis pas certain, » poursuivit le Carentin. « Tu ne seras en sécurité que lorsque tu auras atteint la zone irradiée. »
Jec leva des yeux horrifiés au-dessus de la tasse. « La zone contaminée ?»
C'est le seul endroit où les interliciers ne mettront jamais les pieds, pas plus que les Creusiens, les Skaïtou, les mercenaires de Britive. mais ne t'inquiète pas, tu n'y resteras pas assez longtemps pour être contaminé. 30 siècles, c'est long, et nos amis les atomes de fission ont perdu de leur redoutable pouvoir.
Mais on ne peut pas passer la barrière magnétique à haute densité.
Arthurac libéra un rire à la fois musical et chuintant. Chaque jour, des centaines de quarantins passent tranquillement de la zone contaminée au terrarium et vice-versa. Aucune barrière magnétique n'est en mesure d'empêcher les rats de creuser. Tu seras le premier Andjorien de surface à emprunter les voies souterraines. Un grand honneur. C'est surtout le seul moyen de quitter discrètement Ugène. Les déromates et les vaisseaux réguliers sont contrôlés par les Skaïds surveillants. Ils liraient dans tes pensées aussi facilement que dans un livre ouvert. Une fois dans la zone interdite, tu gagneras la cité de Glatinbat. Là-bas, tu demanderas le vaisseau du viduc Papyronda. C'est un pillard et un égorgeur. Mais si tu lui dis que tu viens de ma part, il ne fera aucune difficulté pour te déposer sur Franzia, une planète de l'amas de Néorope.
Si d'habitude les mots d'Arthrarak enflammaient Jake, ils étaient cette nuit de nature à le glacer.
Cela tenait peut-être au fait que le vieux Quarantin avait toujours évoqué le but du voyage, et non les moyens qui permettaient d'atteindre ce but.
Jake mesurait subitement toutes les difficultés qui l'attendaient. C'était un peu comme lorsqu'il imaginait un dessin magnifique dans sa tête et que chaque coup de crayon l'éloignait un peu plus du modèle parfait qu'il avait spontanément conçu. Un gouffre insondable séparait le rêve de la réalité. Il lui fallait non seulement se rendre dans la zone contaminée, mais encore contacter un pillard, un égorgeur, l'un de ces pirates sans scrupules qui hantaient l'espace et dont Bahatskin parlait quelquefois avec de l'effroi dans les yeux.
Sur Franzia, il existe des réseaux secrets qui font passer les pèlerins sur Terra Mater, la terre des origines, poursuivit Arthrarak. Là, Naya Fikit, Sri Lumpa et le Mahdi Shari des Imlias t'apprendront le son du silence. Le son qui permet d'échapper à l'inquisition mentale et de voyager sur les pensées. Tu deviendras un guerrier du silence, petit Jack, l'un de ceux qui participeront à l'avènement du monde nouveau. Un guerrier du silence.
Il avait prononcé ces derniers mots avec une douceur et un respect infini.
Ce n'est rien qu'une légende, des menteries!
Cria Jake en repoussant rageusement sa tasse.
« Qu'est-ce que ça change ? » répliqua calmement Arthrarak. « À ton avis, qu'est-ce qui est préférable ? Croire aux légendes ou se résigner à une existence sans espoir ? Moi, je préfère la beauté des menteries à la laideur de certaines vérités. »
« Alors pourquoi est-ce que tu restes ici ?»
Les yeux du vieux Quarantin devinrent des puits incandescents.
Tu ne peux pas imaginer à quel point j'aimerais être à ta place, petit surfaceur, murmura-t-il tristement. Mais je ne peux pas partir. Il y a plus de 20 ans de cela, j'étais l'un des correspondants locaux de la chevalerie Absurat.
De la quoi ?
Tu n'as jamais entendu parler de la Confédération de Naflin, des chevaliers Absurat. C'est vrai que c'était avant ta naissance. Avant Lang Empire, lorsque les Andjoriens de surface creusèrent le sous-sol de leur ville pour installer le RTA, ils découvrirent avec horreur le terrarium. Ils découvrirent que des Quarantins avaient survécu pendant des siècles sous leurs pieds. Ils décidèrent immédiatement de poursuivre la politique d'extermination entreprise par les tyrans du Poussou. Mais entre-temps, Ugène avait demandé son intégration à la Confédération de Naflin, une sorte de gouvernement supraplanétaire qui veillait à l'équilibre des pouvoirs. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Sache simplement que la chevalerie Absurat était un ordre secret et que... Il s'interrompit soudain comme si quelque chose venait de le frapper. Il huma longuement l'air et un masque d'inquiétude tomba sur son visage difforme.
Ces maudits Creusiens, ils ont avancé leur date. Quelqu'un nous a manipulés.
Il renversa son tabouret, contourna la table et se rua hors du terrier. Jack, interloqué, le vit couper directement par les carrés de terreau noir, piétiner sauvagement les fans des plumengues. Son ombre étirée fusa sur la paroi éclairée de la grotte. Il disparut dans la galerie étranglée qui donnait sur l'embranchement. En attendant le retour du vieux Carentin, Jack ne trouva rien de mieux à faire que de grignoter les gâteaux secs disposés sur le plateau. Une manière comme une autre de résister à l'appel envoûtant du sommeil. Puis il se posa des questions sur le comportement singulier d'Arthrarak, et une inquiétude sournoise le gagna. Nerveux, incapable de rester en place, il se leva, sortit à son tour du terrier, et s'aventura dans la grotte tout en veillant à rester dans les limites du halo de lumière. C'est alors qu'une odeur piquante s'insinua dans ses narines. Il lui associa instantanément l'image du parc cynégétique où son père et son oncle, Ton Orlil, l'avaient emmené l'année passée. De temps en temps, Pa Atskin aimait bien, selon sa propre expression, taquiner le fauve, un loisir réservé aux catégories sociales supérieures dont il se réclamait. Le fauve en question était importé, numéroté, réservé, anesthésié, et n'offrait qu'une résistance de principe à son chasseur d'un jour. Mais il gardait ses apparences de fauve, avec des griffes et des dents impressionnantes, aussi longues que des poignards. Un bruit de cavalcade le tira de ses rêveries. Il discerna la silhouette arachnéenne d'Arthrarak, qui revenait sur ses pas, qui accourait vers lui essoufflé, livide, tellement penché vers l'avant que ses mains touchaient pratiquement le sol.
« Ne reste pas là, petit Jake. Les Creusiens sont en train de nous gazer. »
C'était ça l'odeur. Des relents de gaz s'échappaient des cartouches utilisées par les chasseurs amateurs du parc cynégétique.
« Le gaz foudroyant, il n'y a rien de plus efficace pour coucher la bête, » disait Pahatskin en épaulant son lance-cartouche.
Cela valait probablement pour les quelques millions de Carentins du Terrarium Nord et un petit Anjorien de surface du nom de Jekatskin. Il resta planté sur le terreau, épouvanté, pétrifié. Sa seule réaction fut de clore les paupières. Tout ça n'était qu'un cauchemar. Il allait certainement se réveiller dans sa chambre. Il en rirait lorsqu'il raconterait cette histoire à ses amis d'Otanjor. Il s'aperçut à peine que le vieil Arthrarak le saisissait par le bras et le tirait vers le sas entrouvert du terrier.